Bonjour à tous, à ceux que je n'aurais pas encore salués. Vous avez sur votre feuille un titre, une mission de l'Église, adorer. L'adoration, une mission de l'Église. Alors Pierre-Yves avait déjà apporté, il y a quelques mois, des prédications sur l'adoration. Et on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'on va dire de plus? Je me suis posé la question aussi. Et pourtant, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous voyez, c'est écrit sur le mur. Obéir à ce commandement, c'est orienter sa vie de façon radicale, totale et concrète. Et ce matin, j'ai à cœur, voilà, de vous exhorter dans ce sens, de nous exhorter. Et je m'inclus vraiment dans tout ce que je vais dire ce matin. Parce que je crois vraiment qu'obéir à ce commandement, c'est orienter sa vie de façon radicale, totale et concrète. Je dis concrète parce qu'on est souvent dans la théorie, dans la forme, dans le concept de l'adoration. Mais l'adoration, c'est une mise en pratique concrète dans ma vie de tous les jours. Également parce qu'il est important de ne pas confondre la forme et le fond. Nous le verrons. Et la troisième chose à laquelle il nous invite ce matin, c'est à nous poser la question. Notre vie, notre Église, est-elle bien en accord, en harmonie avec ce verset ? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors on trouve ce verset en Matthieu, pardon, au chapitre 4. On va le relire dans son contexte. Jésus démarre son ministère officiel. Il vient d'être baptisé par Jean-Baptiste. Et la Bible nous dit qu'il a été emmené dans le désert pendant 40 jours, sans boire ni manger, pour être tenté par Satan. Et Matthieu 4, les premiers versets, sont le récit de ces tentations de Satan auprès de Jésus, dont le but est de le faire chuter. Matthieu 4, 8 à 10. Satan a déjà tenté Jésus à trois reprises. Et enfin, il dit, au verset 8, « Le diable le transporta encore sur une montagne très haute et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Pour Jésus, adorer, c'est à la fois craindre Dieu, parce qu'on voit que ce verset, il dit, il est écrit, il fait référence à un verset de l'Ancien Testament qui, curieusement, ne dit pas « tu adoreras ». En Deutéronome 6, 13 et aussi également en Deutéronome 10, 20, le commandement, c'est « tu craindras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras et tu jureras par son nom ». Tu craindras le Seigneur ton Dieu, tu respecteras, tu vénéreras le Seigneur ton Dieu. Mais Jésus le cite en disant « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, craindre Dieu, se prosterner devant Dieu. » C'est ce que demande Satan, « Prosterne-toi devant moi. » Et tu le serviras lui seul, c'est le mot qui veut dire rendre un culte. Ce n'est pas le mot service qui a donné diaconat dans la notion de service. Après on voit que les anges le servaient. Mais c'est le mot qui veut dire le service du culte. Donc c'est rendre un culte à lui seul. Donc adorer Dieu, c'est lui rendre hommage, l'honorer. Le placer au-dessus, s'incliner, se prosterner, c'est-à-dire se soumettre à lui. Alors pourquoi est-ce que pour Jésus, la demande de Satan est irrecevable? Il aurait pu lui dire, mais tu sais, tous ces royaumes, ils appartiennent déjà à mon Père. C'est ridicule ce que tu me proposes. J'ai déjà tous ces royaumes à ma disposition. Toute cette gloire de mon Père, il peut me la redonner. On le voit par la suite, ça a été la prière de Jésus. Non, il ne lui dit pas ça. Il lui dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Et la clé, c'est ce lui seul. La place de Dieu est unique et ne souffre aucune concurrence. Dieu exige l'exclusivité de l'adoration. Et vouloir prendre ne serait-ce qu'un instant ne serait-ce qu'un moment, la place de Dieu est un péché grave. Dieu exige l'exclusivité de la relation. C'était mon préambule, vous voyez sur votre petit plan. Le premier des 10 commandements, c'est quoi ? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Tu ne leur rendras pas un culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Alors, je ne vais pas développer sur la jalousie de Dieu, qui n'a sûrement pas de connotation humaine. Je veux simplement dire que lorsque l'homme refuse d'adorer Dieu, il n'ôte rien à Dieu. Il n'ôte rien à la gloire de Dieu non plus. Pierre-Yves l'a bien démontré dans sa prédication sur la gloire, sur glorifier Dieu. Mais lorsque l'homme refuse de reconnaître Dieu comme le seul digne d'être adoré, il se rebelle contre l'homme, l'ordre normal des choses. Et bien souvent, il remplace Dieu. Et ça, c'est un péché grave. Dieu réclame l'exclusivité de notre adoration parce que c'est une attitude juste, tout simplement. Alors l'adoration, ce que je vous propose ce matin, c'est de le voir sous cet angle-là. L'adoration, c'est avant tout un cœur entier pour Dieu. Un cœur entier pour Dieu. Un seul Dieu. Un seul qui est digne d'adoration. Un seul à qui nous devons rendre culte. Vous savez, l'autre sens du mot adorer maintenant, alors c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup dans la vie de tous les jours, c'est aimer passionnément. C'est aussi un autre sens qu'on trouve dans le dictionnaire. Aimer passionnément. Alors c'est devenu un peu atténué parce que quand on dit j'adore le chocolat, à moins que ce soit vraiment la passion de notre vie, je pense qu'on l'a un petit peu atténué. Mais adorer, c'est aimer passionnément. Alors on pourrait dire oui, mais c'est pas la définition de ce que la Bible dit. Quoique, quel est le plus grand commandement pour Jésus ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Si ça, c'est pas aimer passionnément, adorer, c'est aussi aimer passionnément. Le premier commandement, d'adorer Dieu lui seul, le plus grand commandement, nous invite à vivre une adoration qui soit aussi un amour passionné avec Dieu. Et vous savez, hier soir, nous avons vécu un moment très important et très attendu, en particulier par nos garçons depuis plusieurs semaines et je dirais même depuis plusieurs mois. C'était le défilé des conscrits. Alors il y a le défilé ce matin avec les vagues, etc. Mais le défilé un peu carnaval, hein, où il y a le déguisement avec les chars. Le défilé des conscrits à Belleville. Et nos garçons l'attendaient avec une grande impatience, vous savez pourquoi ? Parce que c'est le seul jour de l'année où on les autorise à faire péter des pétards. Et ils l'avaient préparé ce jour. Et ils avaient investi de leur argent de poche. Moi, j'étais impressionnée de voir la quantité même qu'ils ont investi en pourcentage d'argent de poche pour constituer des réserves, des stocks. Et ils en parlaient. Et je crois que depuis une semaine, il n'y a pas un jour où ils n'en parlaient pas. Ça occupait leur esprit, leur énergie. Quand on est passionné, qu'est-ce qu'on est prêt à faire ? Quand on est passionné de Dieu, est-ce que ça occupe notre esprit ? Notre énergie, est-ce que finalement ça ne nous coûte pas de donner pour Dieu ? Un cœur entier pour Dieu, c'est un cœur qui adore en esprit et en vérité. C'est Jésus qui a donné cette expression, hein ? Un cœur qui adore en esprit et en vérité. Et je vous suggère qu'en esprit et en vérité, c'est dans mon être intérieur, par l'esprit, mais aussi en vérité, en cohérence. Parce que bien souvent, et Fred en a parlé, à un moment je me suis dit, mais est-ce qu'il sait ? J'ai même dit à Pierrick, il sait de quoi je vais parler ce matin ? Il me dit, non, non, ah bon. La cohérence, quand je viens adorer, entre la forme et le fond. Un esprit d'adoration, une cohérence entre la forme et le fond. Et un cœur qui adore en esprit et en vérité, je voulais décliner, en trois cœurs, c'est un cœur bien disposé, C'est un cœur qui s'incline et se laisse conduire, un cœur qui se soumet. Et c'est un cœur qui l'honore en toutes circonstances. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin, d'un peu plus près, un cœur bien disposé. L'adoration peut s'exprimer de bien des façons, mais elle est toujours l'expression, ou elle doit toujours être, l'expression d'un cœur qui se veut entièrement tourné vers Dieu, désirant l'honorer dans tous les instants et dans tous les domaines de notre vie. Samuel dit à la maison d'Israël, en 1 Samuel 7,3, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, alors ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul. » Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul. Est-ce que ce n'est pas une belle définition aussi d'adoration? Diriger son cœur vers l'Éternel. Vous savez, à l'époque de Jésus, il y avait une question de forme qui divisait les Juifs et les Samaritains. On le voit dans Jean 4, quand Jésus rencontre la Samaritaine, elle a une question. Quand elle apprend ou qu'elle découvre que Jésus est une sorte de prophète, elle lui dit, écoute, tu vas peut-être pouvoir me répondre. Les Juifs, ils disent finalement qu'on est des mauvais Juifs. Parce qu'ils disent qu'il faut adorer à Jérusalem, dans le temple. Que c'est le seul endroit où on peut adorer. Et nous, on adore ici, sur cette montagne. Qui a raison? Qui a raison? Alors Jésus ne tranche pas la question réellement. Il dit même, ben nous, nous adorons ce que nous connaissons. Les Juifs adorent ce qu'ils connaissent. Pourquoi? Parce que Dieu, jusqu'à maintenant, avait toujours dit qu'il établissait sa demeure dans le temple et que c'est là qu'on pouvait venir le rencontrer. Donc ils avaient pas, ils n'étaient pas incohérents en disant ça. Mais Jésus lui répond, « L'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Dieu est esprit, Dieu dépasse largement le temple, Dieu est partout. La terre ne suffirait pas à remplir Dieu, nous dit l'Ancien Testament. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Et pourquoi Jésus dit à la Samaritaine, c'est maintenant? Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer à ce moment-là. Jésus est en train d'ouvrir quelque chose d'extraordinaire. Il est en train de faire en sorte que le temple de Jérusalem n'ait plus de raison d'être. Parce que, d'abord, lui se présente comme le temple, mais ensuite, il est dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que l'Église forme aussi le temple de Dieu? Donc, où pouvons-nous rencontrer Dieu pour l'adorer? Dans son temple, en nous, dans l'Église. Et cela, c'est possible parce que Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix pour que par son sang, nous puissions être déclarés purs parce que Dieu ne peut pas venir habiter dans une habitation impure. Et si Dieu peut venir habiter en nous, c'est pas parce qu'on en est digne, c'est parce que Christ en est digne. Parce que par le sang de Christ, Dieu nous a rendus purs à ses yeux et peut ainsi venir habiter en nous une habitation pure. Et un cœur entièrement tourné vers le Seigneur, ben finalement, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Trop souvent, jour après jour, on se rend compte que ça nous est impossible de rester entièrement tourné vers le Seigneur. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le roi David, après avoir été repris par Dieu sur son adultère avec Bathsheba, a écrit en psaume 51,12 « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Que Dieu nous donne un esprit bien disposé. Il crée en nous un cœur pur, grâce à Christ, qu'il nous donne un esprit bien disposé. Et vous savez, il y a 2 jours, je venais de passer plusieurs heures à méditer sur ce sujet, à réfléchir à ce que j'allais dire, à écrire. Et puis, Après, nous avons eu une discussion avec Pierre sur un sujet de l'Église. Et puis, petit à petit, vous savez, des fois, on discute, et puis, il y a des émotions qui viennent se rajouter. Et à un moment donné, j'ai un peu dévié. Et Pierre m'a dit, mais c'est la réalité, là, dont tu parles, ou c'est tes propres craintes? Puis, quand je me suis remis, un peu plus tard, au travail, j'étais pas bien. Je comprenais pas pourquoi, j'arrivais plus à me remettre dedans. Et le Seigneur m'a repris. Il m'a dit, mais regarde, à quel point tu peux facilement glisser sur le jugement, ou l'a priori, ou la médisance. Et j'ai dû demander pardon à Dieu, demander pardon à Pierre-Yves, je demande pardon à l'Église, parce que des fois, sans s'en rendre compte, insidieusement, notre cœur, on se rend compte qu'il n'est pas tourné vers ce qui est juste et bon. Et c'est pourtant, on ne le veut pas. Je ne le voulais pas. Ce n'était pas ce que je cherchais. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Vous savez, le peuple d'Israël confondait le fond et la forme, croyant que parce qu'il maintenait la forme voulue par Dieu et prescrite par Dieu, il lui était agréable. Quelle erreur! Dieu dit par son prophète Ésaïe, Ésaïe 29,13, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et nous, parfois. Nous pouvons passer un bon moment de louange, dans le chant, la prière, avoir le sentiment qu'on a un vrai temps d'adoration. Et parfois, ça nous fait oublier même notre ressentiment contre un frère ou une sœur, nos mensonges, notre manque de compassion envers un prochain nécessiteux, les mots durs soufflés par la colère qu'on a pu dire quelques heures avant, notre complaisance envers la médisance. Mais s'il s'agit vraiment d'adoration, alors nous ne pourrons pas repartir comme nous sommes venus. L'adoration doit nous conduire à la repentance et au changement. Un cœur dirigé vers l'Éternel. Un cœur disposé à l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce que ce matin, j'ai participé à l'adoration collective, alors que je m'accroche encore à un ressentiment contre un frère, contre une sœur? Alors que je refuse encore à Dieu de régner sur certains domaines de ma vie? Où en est notre cœur ce matin? Le désirons-nous entièrement tourner vers Dieu, ce Seigneur que nous voulons honorer? Alors si oui, on peut passer au deuxième chapitre. Un cœur disposé, dirigé vers l'Éternel, c'est un cœur qui s'incline, qui se prosterne et qui se laisse diriger. C'est un cœur qui se soumet. Vous savez, l'autre expression qu'on voit souvent, c'est fléchir le genou. Quand Élie est découragé, il a l'impression qu'il est le seul à rester fidèle à Dieu. Qu'est-ce que lui dit Dieu? Il lui dit, non, j'ai encore 7000 hommes en Israël qui n'ont pas fléchi le genou devant l'idole Baal. Encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou. Devant quoi fléchissons-nous? Devant qui fléchissons-nous le genou? Une expression qui revient aussi souvent dans l'Ancien Testament, une critique de Dieu à l'égard de son peuple, c'est de dire « Vous êtes un peuple à la nuque raide. » Un peuple à la nuque raide qui ne se laisse pas diriger facilement, qui ne s'incline pas facilement, qui ne se soumet pas facilement. Et il exhorte en Deutéronome 10:16 « Vous circoncirez votre cœur et vous ne raidirez plus votre nuque. » Ah là là, un peuple à la nuque raide, qui refuse de fléchir devant Dieu et de se laisser guider, et qui est capable de s'incliner devant des idoles. Nous devons être souples devant Dieu, capables de nous incliner devant sa volonté, et nous laisser guider par son esprit. Mais nous devons rester fermes face au mal et à tout ce qui s'oppose à Dieu, et résister. Jacques 4,7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au mal, il fuira loin de vous. » Et curieusement, je me suis fait la réflexion que notre nature humaine, c'est souvent de résister à Dieu et de fléchir devant le mal. un cœur disposé à l'œuvre du Saint-Esprit pour produire des œuvres de l'Esprit et non pas les œuvres de notre nature humaine. Y a-t-il des choses ou des personnes qui nous font fléchir dans notre engagement pour le Seigneur ou qui nous font faire des compromis? La peur de perdre quelqu'un, de perdre sa sécurité matérielle, de perdre sa situation, la peur de manquer, la peur que nos désirs et nos besoins ne soient pas satisfaits. Le regard des autres? Ou est-ce qu'au contraire, nous nous inclinons avec confiance, la confiance en Dieu et en ses promesses de répondre à nos besoins, de prendre soin de nous? Est-ce que nous nous soumettons à sa parole, non seulement à ses promesses, mais aussi à ses commandements, même si parfois cela exige des choix a priori difficiles? Et je dis a priori, parce qu'avec Dieu, on se rend compte par la suite que c'était des choix sages et justes. Est-ce qu'on est soumis au Saint-Esprit lorsqu'il nous reprend et nous exhorte? Et dans l'Église, une Église qui adore, qu'est-ce qui dicte nos décisions, nos projets, nos activités, notre engagement? Est-ce que ce sont les finances, les locaux, le regard des autres, la peur de voir certaines personnes partir? Surtout, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, ça pourrait vexer et on perdrait des gens. Notre bien-être ou nos besoins personnels? Ou est-ce que c'est le désir de glorifier Dieu et de l'honorer, d'édifier son Église dans la grâce et la vérité de Dieu, le respect sans compromis de la parole de Dieu et de son Saint-Esprit? Et cela nous conduit à mon troisième aspect, c'est le cœur qui l'honore en toutes circonstances. Rendre un culte, on a vu que c'était servir dans le but d'honorer. D'honorer Dieu. Servir dans le but d'honorer Dieu. Chercher à honorer Dieu dans toutes les circonstances de ma vie, dans tous les domaines de ma vie, c'est adorer Dieu. 1 Corinthiens 10, 13 dit « Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et Jésus nous a avertis. En Matthieu 6, 24, il dit « Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et Mammon. » Alors Mammon, c'était le dieu de l'argent. Donc on pourrait dire « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et le dieu de l'argent, de la prospérité, de la richesse, de la sécurité matérielle. » Mais on pourrait mettre Dieu et autre chose. On ne peut servir deux maîtres sans que l'un d'eux l'emporte sur l'autre. Et notre vie spirituelle ne pourra grandir que si Dieu est au centre de tout et que sa volonté est notre préoccupation. Bien souvent, nous nous plaçons nous-mêmes au centre. Mes besoins, mes désirs, mes projets, mes décisions. Mauvais calcul. Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela vous sera donné en plus. Cessons de clocher sur les deux pieds. Ça, c'est une expression du prophète Élie dans 1 Roi 18-21 qui reprochait justement au peuple d'Israël de clocher des deux pieds. Vous savez, on boite des deux pieds finalement. Vous avez à cloche-pied, on peut choisir un pied ou on peut choisir l'autre. Mais lui, vous essayez de sauter à cloche-pied, mais sur les deux pieds à la fois. Et il leur a dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, allez après lui, choisissez. Je dois chercher à honorer Dieu par mes paroles, mes actes, mes choix de vie, en toutes circonstances. Avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Il veut notre vie entière. Et il y a ce texte qui m'a longtemps terrifiée, dans Apocalypse 3, 15 à 16, où Dieu dit à l'église de Laodicée, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » C'est terrible, ça. Une adoration et un amour passionné pour Dieu, bouillant. Dieu veut notre vie entière, une adoration totale, exclusive. Alors vous savez, la tentation de fléchir, et j'ai réalisé à ce moment-là de ma prédication que j'étais taraudée par la tentation d'atténuer ce que je viens de dire. Pourquoi ? Parce que ça peut paraître radical, exigeant, dur. Et puis, je crois que Dieu m'a repris parce que je pensais à un texte dans Jean 6 où il y a des disciples de Jésus qui le suivaient depuis quelque temps, qui ont fini par dire « Ce que tu dis là, c'est trop dur à entendre, on s'en va. » Et je me dis des fois, oui, Dieu peut être radical dans ce qu'il dit. Dieu, il veut l'exclusivité, il veut votre vie entière, il veut votre cœur entier, il veut vos choix, il veut que tout lui soit soumis. Mais en même temps, c'est lui qui se tient à la porte. Parce qu'après Apocalypse 3, 15 et 16, il y a Apocalypse 3, 20. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Il n'a pas dit, je te vomis, je m'en vais, ciao. Non, il peut y avoir des domaines de notre vie où il est à la porte. Mais il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et je frappe encore, jusqu'à ce que tu entendes et que tu ouvres. Et je viendrai souper avec toi. Il n'a pas dit « je viendrai avec un bâton pour te punir ». Non, je viendrai restaurer la relation. Un cœur qui honore Dieu en toutes circonstances. C'est humainement impossible, mais avec Dieu c'est possible. J'honore Dieu lorsque je tends la main à celui ou celle qui m'a blessé en vue d'une vraie réconciliation. J'honore Dieu lorsque je refuse le compromis, que je refuse la médisance. J'honore Dieu lorsque je m'attache à rester intègre et droite, même quand personne ne le verra. Je regarde si j'ai le temps de vous raconter une anecdote. J'ai presque fini, donc je prends le temps. Il y a quelque temps, il m'est arrivé quelque chose dont je suis pas forcément très fière, mais il y avait un Lidl pas très loin de chez nous, et puis il y a un chemin court pour y arriver depuis chez nous, puis un chemin plus long. Puis ce chemin court, quand on repartait par ce chemin-là, il y avait un espèce de panneau sens interdit qui était mal mis, on savait pas trop à quoi il se désignait. La route était large, donc personne s'en occupait de ce panneau. Puis un jour, ils ont dû se dire que personne le respectait, alors ils l'ont mis bien clairement, boum, de chaque côté de la route. Pour dire, dans ce sens-là, vous ne devez plus repartir par là. Et puis vous savez, moi je fais partie de ces gens qui ont du mal à respecter les lois qu'elles trouvent stupides. Et je me suis dit, mais c'est stupide. Cette route, elle a la place pour qu'on puisse être en double sens. Il n'y a jamais personne en plus qui passe. Je me dis, c'est peut-être pour leur camion, mais il n'y a jamais de camion qui arrive par là. Ça me fait gagner du temps pour arriver chez moi, vraiment. Et je vous avoue qu'au début, je n'ai pas tenu compte des panneaux. J'étais pas la seule d'ailleurs, mais ça m'excuse pas du tout. Et au bout de quelques temps, Dieu m'a repris. Peu importe qu'on me voit ou qu'on me voit pas. Peu importe que j'ai compris ou pas pourquoi. Il y a peut-être une raison réelle. Qui est ces panneaux, il n'y en a peut-être pas, c'est pas mon problème. J'ai mon permis parce que je suis censée respecter le code de la route. Et je me suis dit, mais Seigneur, je suis pas fidèle là, dans cette petite chose-là. Je te demande pardon. Et j'ai décidé de plus prendre ce chemin-là. Mais en même temps, je me suis dit, mais Seigneur, je sais que personne ne le verra, ça ne changera rien pour personne, mais devant toi, je veux rester intègre. Et je dis, je trouve ça stupide, je ne le fais pas parce que je trouve ça intelligent de faire comme ça, mais je le fais parce que je veux t'honorer. Et quand je ne passe pas devant, quand je ne prends pas ce chemin, j'ai le sentiment d'honorer Dieu. Et vous savez, il y a quelque temps, il y a eu des travaux qui ont fait qu'il fallait passer devant le Lidl et aller faire un immense tour pour rentrer chez soi. Un soir, il pleuvait, j'étais fatiguée. Et j'ai vu des gens qu'on coupait à travers ce parking pour aller prendre cette fameuse route. Et je me suis dit, non, je fais le tour, je me rajoute plusieurs kilomètres. Mais Seigneur, je veux t'honorer dans ces petites choses-là. Rester droit et intègre, même quand personne d'autre que Dieu nous voit. Surtout quand personne d'autre que Dieu nous voit. Parce qu'alors là, on ne le fait pas pour le regard des autres. On le fait parce qu'on dit au Seigneur, je t'aime et je veux t'honorer. J'honore Dieu quand je fais le choix d'obéir, même si cela me coûte. convaincue de sa bonté et de son amour pour moi. J'honore Dieu quand je peux continuer à proclamer ma confiance en la bonté de Dieu alors que tout dans ma vie semble vouloir dire le contraire. Tout va mal. Mais Seigneur, je proclame haut et fort que je crois en toi, en ta bonté, en ton amour et en ta souveraineté sur ces événements de ma vie. J'honore Dieu lorsque je fais passer les autres avant moi-même, lorsque j'accueille l'autre comme Dieu m'a accueilli, lorsque j'ose affirmer mes convictions avec droiture, mais avec amour, sans agressivité. Et la liste pourrait être longue de toutes les manières dont nous pouvons honorer Dieu. Un cœur qui honore Dieu en toutes circonstances. Alors en conclusion, puissions-nous vivre une relation d'adoration et d'amour passionné avec le Seigneur. Un cœur bien disposé à l'action de son esprit, tourné et dirigé vers l'Éternel. Un cœur qui s'incline et qui se soumet. Alors une église qui adore, c'est quoi ? C'est une communauté d'enfants de Dieu qui adore en esprit et en vérité, soumis à Dieu dans leur vie entière. Et c'est cette communauté au sein de laquelle règne un esprit d'adoration, soumise à Dieu et qui cherche à l'honorer dans ses relations, dans ses activités, dans son enseignement, ses projets, recherchant sans cesse la direction du Saint-Esprit. Sommes-nous des adorateurs en esprit et en vérité ? Le Saint-Esprit nous montre-t-il un domaine de notre vie ou un recoin de notre cœur sur lequel il ne règne pas encore, qui n'est pas dirigé vers lui? Le Seigneur est fidèle pour pardonner le cœur repentant et par son Esprit nous aider à développer un esprit d'adoration, un cœur entier pour lui. Ô Seigneur, crée en nous un cœur bien disposé. Je vous invite à un temps de recueillement.